Amen. Ces dernières semaines, j'ai été interpellé à plusieurs reprises par plusieurs personnes, par les interventions aussi de Michel dans la prédication. Et s'est dégagé au fil de ces derniers jours un axe de partage. En fait, ce matin, j'aimerais vous parler des représentations symboliques dans la Bible qui nous parlent du salut. Un chemin, quelque part, avec des images, des symboles qui sont là pour nous dire qu'est-ce que c'est que le salut. Et le premier symbole, alors c'est à la fois des symboles réels, ce qu'ils ont vraiment dans la Bible, ce rôle-là, une image, soit des choses qui sont devenues symboliques. Et le premier passage que j'aimerais partager avec vous, le premier symbole que j'aimerais partager avec vous pour parler du salut, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, par exemple, où Dieu dit, où il est dit en tout cas, « Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Plus loin, il est dit dans la parole de Dieu, au chapitre 3, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Et puis on voit la suite, vous connaissez, Genèse 3, 6, l'arbre vit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et elle en mangeait, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Genèse 3, 11. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, verset 63, me semble-t-il, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Le premier symbole dont je voulais vous parler, c'est de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est une chose étrange dans ce récit, ce symbole de l'arbre de vie dans le jardin et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons un jardinier au milieu de nous. Je suis sûr que si vous faites le tour de son jardin, par précaution, comme il y a habité avec ses enfants qui étaient jeunes, il a fait attention de ne pas y planter de ciguës, ou en tout cas d'arbres dont les fruits auraient pu être mortels pour ses enfants. C'est exact, Émilie ? Tu n'as jamais vérifié, tu n'as jamais testé. Mais je suis sûr que si on faisait le tour du jardin de Michel, on pourrait faire cette expérience-là. Il est dans le livre de la Genèse, cette présentation de la création et du jardin des délices, le jardin du paradis, de l'Éden. Et il y a ce récit particulier, Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. La création est bonne. Mais dans le jardin d'Éden, il y a deux arbres, un arbre de la vie et un arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a souvent une confusion quand on est jeune chrétien. En tout cas, ça a été le même. Moi, je croyais que c'était le fruit de l'arbre de la vie que Adam et Ève avaient mangé. Non, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est vouloir, dans l'Écriture, déterminer par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Pourquoi Dieu a-t-il planté un arbre en disant « tu n'en mangeras pas » ? Voilà un symbole intéressant. Alors, quand on lit attentivement, on s'aperçoit que la volonté de Dieu, c'était que la connaissance du bien et du mal se fasse par une relation avec lui. C'était de ne pas choisir un raccourci où l'homme dit « c'est moi qui saurai ce qui est bien et ce qui est mal ». Sigmund Freud a beaucoup travaillé sur cette question de la connaissance du bien et du mal. Et s'il en est un qui connaissait notamment l'Ancien Testament, dans son approche de la psychanalyse, c'est bien Sigmund Freud. Vous seriez étonné du nombre d'écrits et de théories de Freud dans la psychanalyse qui repose sur une réflexion à partir de l'Ancien Testament. Et dans sa réflexion, il pose l'idée que finalement, la connaissance du bien et du mal repose sur une frustration. tu ne mangeras pas, sur un interdit. C'est-à-dire que l'homme qui, pour lui, doit être libre et se connaître, cela doit passer par la connaissance du bien et du mal, d'où l'analyse, d'où le travail intérieur, qui, je dirais, rejette Dieu. Il rejette aussi la question des interdits. Alors, quel étrange Dieu que le nôtre, qui, dans le jardin des délices, dans le jardin où l'homme devait s'épanouir, grandir, se développer, plante à la fois l'arbre de vie et à la fois l'arbre de la connaissance du bien et du mal en disant surtout, tu n'en mangeras pas. Mais en fait, il ne pouvait pas en être autrement, puisque c'est uniquement dans la mesure où l'homme était libre qu'il pouvait être une créature et une création qui librement se donnerait à Dieu. Nous avons entendu des témoignages ce matin. Quelle est l'origine de ce témoignage? C'est que les femmes, les hommes, ont à un moment donné librement consenti de se donner à Dieu. Il n'y a pas eu de contrainte. Dans les témoignages que nous avons entendus, il n'y a personne qui ait dit « j'ai pas eu le choix, j'étais obligé, Dieu ne m'a pas donné la liberté de ». Si, depuis l'origine, la création repose sur le principe de la liberté. « Tu ne mangeras pas ». Nous sommes libres. Soit de rechercher notre salut par nous-mêmes, soit d'être à l'écoute de Dieu et dépendant de sa parole. Mais si nous faisons le choix, si nous faisons ce choix de déterminer par nous-mêmes ce qui est bien et mal, alors nous choisissons ce qui est bien ou mal, mais nos passions en viennent rapidement à nous dominer. Car viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, au gré de leur passion, et l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables, dit Paul à Timothée dans sa deuxième épître, chapitre 4, verset 3. Si nous déterminons par nous-mêmes, si nous choisissons ce qui est bien ou mal, lorsque Dieu constate que le choix de l'homme a été fait, et il le savait, c'est comme si Michel avait planté sciemment un arbre toxique dans son jardin en sachant qu'Émilie allait en manger. Quelle perversion! Est-ce que nous considérons Dieu comme un Dieu pervers? Ou est-ce que nous comprenons le poids de la liberté qu'il nous donne, l'étendue de son amour pour nous dire « Je pourrais te forcer, te contraindre à m'aimer, mais je te donne cette liberté de m'aimer, de me refuser, de t'éloigner de moi. » Si nous disons « Nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous », dit l'apôtre Jean, nous avons péché, nous avons fait ce choix. L'humanité a fait ce choix de s'éloigner de Dieu. Alors Dieu va faire un acte d'amour. Moi je le vois et je le lis comme cela. Il va demander, il va ordonner aux anges de faire sortir l'homme du jardin d'Éden. Quel acte d'amour! En relisant la Genèse, je me disais, il n'y a pas plus bel acte d'amour que Dieu faisant sortir l'homme du jardin d'Éden. Parce que sa parole nous dit, de peur qu'il ne mange du fruit de l'arbre de la vie et qu'il ne vive éternellement. Qu'il ne vive éternellement éloigné de moi, perdu, égaré dans les ténèbres. De peur qu'il ne mange de l'arbre de la vie. Ce que je veux, c'est qu'il quitte ce lieu pour que je puisse retrouver un nouveau chemin. Il mettra des anges aux portes du Jardin d'Éden, est-il écrit dans ce texte ? Jusqu'à ce que le plan de salut de Dieu s'accomplisse et que l'homme retrouve une possibilité, un chemin, il a mis des anges. Si je ne m'abuse, je ne sais pas si ma mémoire est juste, mais il me semble qu'au moment de la crucifixion, le rideau du temple s'est déchiré. Et il me semble que sur ce rideau, il y avait une représentation d'anges, non ? Je ne sais plus. Des chérubins, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait des chérubins qui gardaient le jardin d'Éden, et au moment de la crucifixion, le voile se déchire, et ces anges qui étaient là et qui représentaient là aussi une limite, eh bien ce voile s'est déchiré, l'accès. Nous avons eu, par la grâce de Dieu, un chemin qui fait que la connaissance du bien et du mal qui nous condamnait parce que nous avions choisi de dire « Je veux connaître le bien et le mal par moi-même et ne plus dépendre de Dieu », eh bien que ce chemin-là puisse être rétabli. Alors, effectivement, la voix de Dieu qui revient dans notre vie, sa parole qui nous rencontre, que nous entendons, en nous convertissant, en retrouvant une relation avec lui, nous rétablissons cette possibilité qu'il nous dise « Voici ce qui est bon. Voici ce qui est bien pour ta vie. Voici ce qui est mauvais. » En travaillant dans les addictions, pour les personnes qui sont dépendantes de l'alcool, des drogues, il y aurait un chemin. Ça serait de supprimer tout l'alcool du monde, toutes les drogues, tous les toxiques, tous les médicaments dont certains sont dépendants, supprimer Internet pour éviter la dépendance aux jeux vidéo. On peut essayer de supprimer. Mais en fait, le seul chemin qui est réel, qui est bon, c'est quand dans une relation, on peut déjà parler d'un chemin de guérison, d'un retour vers soi-même. Et ce que Dieu fait dans la conversion, c'est que nous nous retrouvions nous-mêmes et que nous le retrouvions aussi. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est accepter d'être à nouveau en relation avec celui qui. Et l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Ce qui rend la guérison possible, la relation possible, c'est le Saint-Esprit qui peut me parler maintenant et me dire ce qui est bon. Et ce qui est mal. Et pourtant, même en tant que chrétien, nous avons cette fâcheuse tendance, ce péché en nous qui nous attire toujours de vouloir dire « Je vais décider ce qui est bon. Je vais décider ce qui est mal. » Parce que nous sommes toujours marqués par cette consommation, cet acte, cet aller vers l'arbre de la connaissance du bien. Plus nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, plus nous lui laissons la place pour déterminer, nous dire, nous conduire dans le meilleur, et plus nous retrouvons cette relation, cette dépendance avec un Dieu qui dit « Je vais t'instruire. Tu m'écouteras et tu vivras. » Le deuxième symbole dont qui me semblait naturel après cela, c'est le symbole que l'on retrouve mentionné dans l'évangile de Jean. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le deuxième symbole qui me semble intéressant, c'est ce symbole du serpent d'airain. Vous vous rappelez cet épisode dans Nombre 21 au verset 4, quand le peuple qui venait de remporter une victoire, c'était pas dans un temps de récrimination, de défaite, de mal-être, de souffrance, non, il venait de remporter des victoires, et à ce moment-là, le peuple s'impatienta en route. Moi, je trouve intéressant de s'arrêter sur les petits mots comme ça. Ils sont en victoire, ils sont dans une marche avec Dieu, et ils s'impatientent. Et alors, ils commencent à parler contre Dieu et contre Moïse. Ah, l'impatience. l'envie que les choses arrivent vite, l'envie de grandir plus vite. Je suis sûr que tous les matins et tous les soirs, Laurence et Hervé, il y en a un qui tient la tête de Théo, l'autre qui tire les pieds, qui disent « Allez, grandis, grandis, mais enfin grandis !» La semaine dernière, ils l'ont inscrit à l'école de musique pour qu'il aille plus vite. Hein ? N'est-ce pas ? 3 semaines, il est même un peu en retard. Ah, qu'est-ce qu'on aimerait que ça aille plus vite dans nos vies ? Ne pas respecter les temps de Dieu. Ni les temps pour aller plus vite, ni les temps pour traîner en arrière. Alors ils se sont impatientés et ils ont commencé à rouspéter. Ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte ? Pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. C'est un épisode très particulier. L'impatience, la révolte, la récrimination. Moi, je sais qu'en regardant vos beaux visages devant moi, personne n'a été dans la révolte, dans l'impatience, dans la colère. Personne. Moi, si, mais vous, non. Quand je vous regarde, je dis, oh non, pas eux. Hein ? Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Quand ces serpents ont attaqué et commencé à mordre, ça vous dit rien, le serpent qui mord ceux qui sont dans l'impatience ? La phase précédente, l'arbre de vie, la femme qui mange le fruit de l'arbre de la connaissance, puis le serpent qui dit « Mais non, t'es impatient de connaître le bien et le mal, mais il y a un chemin plus rapide, mange donc de ce fruit. » On est toujours dans la suite de cette pensée, de ce symbole. Et là, quand les serpents attaquent le peuple, eh bien, il y a une réponse de Dieu. Dieu répond toujours quand nous sommes dans notre impatience et dans la désobéissance. J'avais un de mes pères spirituels, parce qu'il y a 2-3 hommes qui ont compté dans ma vie. Et il y en a un qui s'appelle Jacques Vavasseur, qui est âgé aujourd'hui avec sa femme Danielle, qui ont été vraiment des serviteurs de Dieu dans le ministère, m'a fait tellement de bien et pas qu'à moi. Et Jacques et Danielle étaient chargés d'une vie d'église, d'une assemblée, puis en même temps, c'est eux qui ont créé et développé les éditions Foi et Victoire de l'Église apostolique. Plein de livres que vous pouvez rencontrer et connaître des éditions. Mais ils étaient tellement, tellement dans le service que parfois ils s'oubliaient et ils ont vécu à un moment donné quelque chose de très difficile. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils investissaient aussi dans les éditions et tout. Et puis ils avaient acheté avec les éditions une petite chapelle à Notre-Dame de Gravenchon qui est à environ 3, 4, 5 kilomètres de Lillebonne où il y avait leur assemblée et leur maison. Et puis, ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour manger, ils avaient des enfants et tout. Et puis, à un moment donné, il y a Daniel qui était mais vraiment impatiente, qui était fâchée. Elle disait, mais voilà, un petit peu comme ces Juifs qui disaient, on n'a pas à manger, on n'a pas à boire, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça alors qu'on n'a pas en retour ? Et puis elle était en voiture avec Jacques et puis elle lui disait, c'est pas normal qu'on soit dans la détresse, c'est pas normal qu'on n'ait pas à manger, qu'on n'ait pas, je dirais... Même les Juifs, quand ils ont récriminé contre Dieu dans le désert, parce qu'ils n'avaient que de la manne, que de la manne, que de la manne, que de la manne, ils en avaient marre. Et à un moment donné, ils ont crié, ils se sont révoltés, puis Dieu a dit « Ok, puisque c'est comme ça, je vous envoie des cailles ». Et il y a des cailles qui sont venues sur le camp, et il est dit que le peuple d'Israël était tellement avec ce désir de manger de la viande qu'ils en sont tombés malades. Et il y a Daniel qui était dans sa voiture, c'est une histoire authentique, un témoignage authentique, et qui disait, mais même le peuple a eu des cailles. Et à ce moment-là, ils étaient sur leur route, ils rentraient le midi pour manger à la maison, et à ce moment-là, le camion qui est devant, deux portes s'ouvrent, et il y a un carton qui tombe sur la route. Alors ils s'arrêtent, ils prennent le carton, ils le mettent dans la voiture, le temps d'essayer de rattraper le camion, il avait disparu. Ils disent, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, ils rentrent à la maison, et puis ils sortent le carton, ils le mettent dans la cuisine. Ils disent, il n'y avait rien, pas d'étiquette. Bah, qu'est-ce qu'on en fait ? Bah, on va voir ce qu'il y a dedans. Ils ont ouvert le carton, il y avait des cailles. Vous savez, Dieu répond de cette manière-là, dans sa fidélité. Le serpent d'airain, c'est quand le peuple regarde ce qui a été fait pécher. Ce serpent, ces serpents qui les attaquaient, ce serpent sur une perche, sur un bois, eh bien, ce serpent, en le regardant, ils étaient sauvés. Celui qui regardera ce serpent. Dans le mot grec « ra'a », ça veut dire celui qui regardera ou qui sera montré, celui qui pourvoira, celui qui comprendra, celui qui remarquera, celui qui prendra garde à ce serpent, celui qui l'apercevra, celui qui le choisira, celui qui prendra connaissance, celui qui observera, celui qui sera témoin. Toutes ces traductions sont possibles rien qu'avec ce verbe-là. Et il est traduit dans plusieurs passages par ces expressions. Est-ce que ce n'est pas celui qui regardera à Christ, celui qui a été suspendu au bois, qui a été fait pécher ? Pécher. Si je le regarde, si j'en suis témoin, si je le remarque, alors je serai guéri. Quel trait d'union entre la Genèse et le livre des Nombres ! Et entre le livre des Nombres et l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde dans ce passage. Et Jean parle de ce serpent d'airain, et quelques versets après, il dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Il l'a élevé sur la croix, il l'a fait pécher pour que celui qui le regarde, qui le remarque, qui en est témoin, qui l'observe, qui est attentif, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que nous voulons continuer à murmurer notre insatisfaction, notre impatience, parce que ce que nous vivons nous semble trop dur, trop lourd? Je lisais quelque chose qui faisait la différence entre être tenté ou que notre foi soit éprouvée. Est-ce que Dieu nous tente ? Si on revient au jardin avec cet arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce que Dieu a tenté l'homme ? Ou est-ce qu'il a éprouvé sa foi ? Ce n'est pas la même chose. Être éprouvé dans sa foi et être tenté. Le diable tente. Si tu manges de ce fruit, vous serez comme des dieux. Ah, et puis je peux vous dire qu'il y a des fois, on se prend pour des dieux. Hein. On est tellement sûr de sa connaissance, de son savoir. Il y a quelqu'un, il y a une histoire chez les juifs qui circule, on dit, les juifs, il y en a plein qui sont des personnes tellement, avec tellement de savoir. Et puis l'autre, tu dis, ah bon, tu crois ? Oui, regarde, Moïse, il a dit une chose, il savait, il disait, tout est loi. Ah bon, c'est un savoir, tout est loi. Puis il y a un autre juif, Jésus, il a dit, tout est amour. Ça, c'est un savoir. Puis il y en a un autre juif qui s'appelait Marx, qui disait, tout est argent. Toute une question de fric. Il y en a un autre qui s'appelait Freud, il disait, tout est sexe. On arrive toujours à ça. Et même Einstein, ah bon, Einstein aussi, dit oui, il a dit tout est relatif. Ah, tout savoir en croyant que cela va nous permettre de nous sauver. La foi vient de ce que nous écoutons. Le péché vient de notre surdité. J'aime bien cette formule. Quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, c'est parce qu'il a été sourd à ce que Dieu lui disait, au chemin qu'il lui disait. Il ne l'a pas tenté, l'homme, il a éprouvé sa foi. Si vous éprouvez les murs d'une maison ou d'un immeuble, je suppose que c'est ce que fait Pascal quand il travaille, s'il éprouve, ce n'est pas dans l'idée de la faire tomber. C'est pour vérifier sa solidité. Lorsque Dieu éprouve notre foi, c'est pour vérifier notre solidité et que nous la renforcions. Quand il éprouve notre foi, c'est pour que notre relation, notre écoute de lui, nous permette de fortifier l'homme intérieur, l'être intérieur. Quand l'adversaire vient, ce n'est pas pour nous fortifier. Lorsqu'il nous tente, c'est pour nous faire tomber. C'est pour cela qu'on parle de chute originelle. La foi vient de ce que nous entendons. Le péché vient de notre surdité à la parole, à la pensée de Dieu. Paul le dira aux Romains en disant « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et cette parole est venue habiter au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui dans notre vie? Dans nos choix, dans nos décisions? Dans notre impatience? Dans notre incrédulité? Qu'est-ce que nous faisons de cette parole qui nous rencontre? L'arche de Noé est un symbole aussi intéressant. Dans Corinthiens, il dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » L'arche de Noé, moi j'aime bien ce symbole-là, parce qu'il représente la folie de l'Évangile. Lorsque, est-il écrit dans Genèse 6:1, les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que leurs filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les hommes étaient belles et les en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Vous êtes d'accord, Louane? Elle me fait travailler en semaine, elle m'envoie des SMS, il faut que je lui réponde. Et entre autres, il y avait ce passage-là où les fils de Dieu... Il est dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et elle m'a posé la question, mais c'est qui ces fils de Dieu? Est-ce que c'est des anges déchus? Est-ce que c'est des créatures angéliques? Et en fait, il y a deux interprétations qu'on retrouve dans le judaïsme, comme dans, chez les exégètes chrétiens. Il y a une orientation, c'est de dire, les fils de Dieu, ce seraient les descendants de Seth, c'est-à-dire de cette lignée d'Adam qui représente la lignée fidèle à Dieu. Même si on peut douter que tous les descendants de Seth aient été des hommes fidèles. Et que c'est en fait ces hommes de la lignée de Seth qui se seraient mélangés avec celle de Caïn. Donc Caïn, lignée de révolte, de colère, qui aurait donné en fait ensuite dans cette union, au verset 4 de ce chapitre 6, et il y avait des géants sur la terre à cette époque-là, et ça aurait été ces descendants de Seth et de Caïn qui auraient été habités par la colère, la force, la puissance, etc. Et puis, il y a une autre théorie qui dit que ce seraient les anges déchus qui auraient, à cette époque-là, souhaité s'unir aux femmes de la terre, et qu'il y aurait des géants qui seraient nés de cela. Alors, ça n'a pas de connotation avec les héros de la mythologie, les Hercules, les ceci, les cela. On a toujours eu ce type de héros dans l'Antiquité, dans toutes les cultures. Quoi qu'il en soit, que ce soit la lignée de Seth qui se mélange avec celle de Caïn, que ce soit des créatures angéliques déchues qui soient venues sur Terre avec ce désir de créer quelque chose de différent, ou peut-être le désir, disent certains exégètes, que Satan puisse empêcher par cela la venue du Messie dans une humanité qui aurait été totalement corrompue. Je vous laisse en décider ou y réfléchir. Mais en tout cas, l'arche de Noé est présentée comme un désir de Dieu de rayer ce péché et de ne faire comme image de salut, comme symbole de salut, que ce bateau en bois qui aurait sauvé, qui a sauvé l'humanité et la création. Cette arche de Noé, c'est une folie. Il y a plusieurs films, y compris des comédies, qui vous montrent un homme qui, tout à coup, même au XXe siècle, Dieu lui parle et il construit une arche. Et ce qui est intéressant, il y a un film avec Steve Carell, je crois, où on voit cet homme qui travaille dans la banque, etc., et puis jour au lendemain, Dieu lui dit « Construis une arche ». Ce qui est intéressant dans la manière dont c'est traité, c'est la manière dont cet homme devient une représentation de la folie pour ses contemporains. L'Évangile est une folie. Vous n'avez pas plus grande folie comme message à communiquer au monde que si vous mettiez... Mon jardin est un peu petit... Mais vous vous mettiez dans votre jardin à construire un bateau de 140 mètres. Aux yeux de tous ceux qui vous entourent. Ils vous prendraient pour des fous. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans ce monde, il n'y a pas de plus grande folie que de dire « Si tu veux vivre dès maintenant une relation avec Dieu, si tu veux goûter à ce mystère de la vie éternelle à laquelle tu es appelé, regarde cette arche qui a été plantée à Golgotha, ce bois qui est là et dans lequel tu peux te réfugier, parce que la vie est là. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1:20, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Le monde se croit sage. J'ai passé des moments difficiles ces derniers mois dans la maladie et je me rappelle d'une nuit où j'ai été dans la douleur toute la nuit. Toute la nuit. Je devais aller à la clinique le lendemain et il fallait que j'attende 7 heures. Et je ne pouvais pas prendre de médicaments que toutes les 4 heures. Donc j'ai, pendant toute la nuit, de 8 heures du soir à 8 heures du matin, je suis resté debout dans mon séjour salon, à tourner, debout. Je ne pouvais même pas m'asseoir. Hein. J'étais debout. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour... Ma femme dormait. Ou elle essayait. Et moi, j'étais là. Alors j'ai lu toute la nuit tout ce qui me tombait sous la main. Du moment que ça occupait mon esprit, m'éloignait de la douleur. Et entre autres, j'ai lu l'introduction à la philosophie de Luc Ferry. Je vous ai dit, tout ce qui me tombait sous la main. Des livres chrétiens, des livres de témoignages, la Bible, la parole de Dieu, mais aussi l'introduction. Et j'ai lu plusieurs chapitres sur notamment qu'est-ce que c'est que la conception de la philosophie. Et la théorie de Luc Ferry, c'est que la philosophie, c'est la seule et unique alternative pour ne pas croire en Jésus-Christ. Je vous conseille de le lire, l'introduction à la philosophie. Lorsqu'il commence notamment sur le chapitre du stoïcisme, le commencement de la philosophie, c'est de dire « c'est la seule alternative pour avoir un salut qui ne repose pas sur quelque chose qui serait Dieu et encore moins Jésus-Christ ». Je l'ai lu, parce que c'est bon de savoir ce que l'adversaire pense. La croix est une folie, chers amis. Et je suis tellement heureux de lire ce que dit Paul quand il dit « Il a convaincu de folie la sagesse du monde. Ce monde est fou aux yeux de Dieu, alors qu'il se croit sage. Tu mettras toute cette création dans l'arche. On y croit, on n'y croit pas. John Irving, qui était un cosmonaute, qui était le deuxième à mettre le pied sur la Lune, a passé toute la fin de sa vie à chercher l'arche de Noé. Pourquoi pas? Ce qui m'a un peu plus étonné, c'est quand un des trois hommes qui ont le plus compté dans ma vie, qui est un professeur émérite, s'est passionné ou se passionne encore dans les dernières années de sa vie à rechercher l'arche de Noé. Ça m'a un peu étonné. Peu importe où est l'arche. Moi, je sais où elle se trouve, ce qui représente cette arche. C'est cette croix plantée à Golgotha. Cette folie de l'Évangile qui fait qu'aujourd'hui, je peux être sauvé. Je m'arrêterai sur ces trois symboles. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, qui est l'arche de l'Alliance, à l'intérieur de laquelle il y a trois objets. Vous vous rappelez lesquels? Le bâton d'Aaron. De la manne, un pot de manne, et... les tables de la loi. Et en fait, quand le rideau se déchire, il donne enfin accès au lieu très saint de manière tout à fait libre. Symboliquement, c'est aussi important. Et dans ce coffre de l'Alliance, que personne ne pouvait toucher, hormis le grand prêtre une fois par an, en mettant avec de l'hysope quelques gouttes de sang sur le couvercle du propitiatoire de ce coffre, eh bien, à l'intérieur, il y avait ces trois objets. Ces trois objets, pour moi, et je terminerai là-dessus, sont aussi très symboliques. Les tables de la loi, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit aux hommes? Là aussi, tu ne tueras pas, etc. Quelles sont les limites? Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mal? Est-ce que nous avons cela en nous? Parce que le coffre de l'Alliance, en quelque sorte. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que nous avons ces tables de la loi en nous ? La manne parle de la fidélité de Dieu qui a dit « Je te nourrirai ». Tout le temps où tu seras dans ton désert, je te nourrirai. Est-ce que nous avons cette manne en nous, cette foi que Dieu nourrira ma vie ? Chaque jour que je passerai, même dans ce désert sur cette terre, il sera fidèle. Même si je ne sais pas ce que c'est, hein. Man, je trouve que c'est super comme nom. Man who ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu manges ce midi ? C'est du quoi ? C'est quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et demain ? Bah, ça sera je ne sais pas. Et après-demain, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu sera toujours fidèle, même si je ne sais pas ce qu'il me donnera. Est-ce que cette foi-là est dans ma vie ? Et puis le troisième objet, c'est le bâton d'Aaron. Vous savez, c'était là aussi une rébellion du peuple d'Israël. Et Dieu qui dit à un moment donné, « Bon, puisque vous doutez de Aaron et de Moïse, que tous les chefs de tribu mettent leur bâton sous la tente de la rencontre pendant une nuit, et demain, on verra. » Et le lendemain, le bâton d'Aaron avait poussé des feuilles et porté des fleurs et des amandes. Quelle est l'autorité ? C'est cela ce que ça veut dire. Dans le coffre de l'Alliance, il y avait le signe de « Quelle est l'autorité qui domine sur ma vie ?» Est-ce que l'autorité de Dieu domine sur notre vie aujourd'hui ? C'est une vraie question à se poser. Amen.